Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Un jeudi noir à l'éducation nationale, c'est ce qui se profile demain alors que la grève des personnels enseignants s'annonce massive, tant le ras-le-bol est grand face aux changements de pied incessants de l'exécutif que face à la surcharge de travail liée à la crise sanitaire. La moitié des classes risque d'être fermée. On verra comment les parents d'élèves tentent de s'organiser. Jean-Michel Blanquer, lui, est au cœur de la tourmente. Le syndicat majoritaire SNUIPP demande la démission du ministre de l'Éducation nationale, tout comme Yannick Jadot, le candidat écologiste. Face à la montée des critiques, le ministre reste droit dans ses bottes. Il est très soutenu par l'exécutif. On sait qu'il bénéficie de l'appui sans faille de l'épouse du président Brigitte Macron, la première dame, qui a d'ailleurs dit aujourd'hui craindre la haine lors de la campagne présidentielle. Elle s'exprimait dans le cadre du lancement de l'opération des pièces jaunes. Valérie Pécresse, de son côté, dénonce cette pagaille à l'école. La candidate Les Républicains rappelle qu'il aurait fallu retarder d'une semaine la rentrée scolaire pour lisser les contaminations. Le variant Omicron semble pourtant un peu marquer le pas dans notre pays, malgré un chiffre de contamination encore très fort hier. Olivier Véran estime que la décrue pourrait s'amorcer dans les tout prochains jours. Au chapitre de l'insécurité à présent, les deux délinquants qui ont provoqué les blessures d'au moins un passant en le traînant en voiture à Noisy-le-Sec risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, autant pour celui qui conduisait la voiture que celui qui filmait la scène avec son téléphone portable. Ils seront présentés demain matin à un juge d'instruction. Ils ont déjà été tous les deux, par le passé, condamnés pour des violences. On entendra le témoignage d'Ali, cet homme de 67 ans qui a été blessé lors de l'agression et qui ne comprend pas pourquoi une telle violence s'est abattue sur lui. Gérald Darmanin, qui était l'invité de CNews ce matin, estime qu'il y a eu intention de donner la mort. On verra ce que la justice réserve aux auteurs de cette agression. Le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs annoncé la fermeture d'une mosquée à Cannes, où des propos antisémites ont été tenus. Enfin, va-t-on vers une avancée dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline, un quadruple meurtre survenu en 2012 en Haute-Savoie. Une personne a été placée en garde à vue pour procéder à des vérifications d'emploi du temps avec des perquisitions à la clé. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité ce soir. On l'évoque avec mes invités. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Vous êtes à fond pour parler de la grève à l'éducation nationale. On va en débattre
dans un instant.
Je suis un
peu seul sur ma position, mais néanmoins, je tiens bon.
On a Éric Diard avec nous, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le député, nous sommes avec Laurent Jacobelli. Bonsoir, porte-parole du Rassemblement national.
Bonsoir.
Et avec Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Bonnel. Tout de suite, on va écouter les parents d'élèves. Ils s'organisent évidemment tant bien que mal en perspective de la grève de demain. La moitié des classes pourrait être fermée. Et eux, ils s'interrogent sur le mouvement qui est lancé par les professeurs. Écoutez.
J'ai ma mère qui va pouvoir garder les filles de 8h à midi. Et ensuite, on a pris Nounou, qui est notre voisine du 6e étage, pour garder les enfants. Et ensuite, je finis plus tôt aussi, un petit peu plus tôt.
C'est difficile pour tout le monde. Je comprends leurs réclamations. Mais à un moment donné, ça complique la vie de tout le monde. Et puis, il faut prendre des décisions pour vite trouver des solutions pour qu'on puisse tous s'en sortir.
Ça sera un tout petit peu compliqué vu que je dois la chercher à 11h30. En plus, les activités à 15h. Donc, c'est un peu compliqué, oui. Donc, je dois sacrifier une demi-journée de travail le matin.
Travail à domicile. Donc, du coup, le petit, la classe, j'ai juste à le récupérer à la cantine. Enfin, comme il n'y a pas cantine, il déjeune à la maison.
Le problème, c'est que je comprends d'un côté les parents qui râlent, mais je comprends aussi les gens du dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? Soit on est obligé de fermer complètement les classes, il n'y a plus d'école et on passe en mode école à la maison, soit on perd toutes les arrière-grand-mères parce qu'on laisse tout le monde revenir à l'école. Voilà.
Voilà, beaucoup d'interrogations de la part des parents d'élèves sur ce moment de grève. On en débat ce soir dans Punchline, c'est parti.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer cette grève dans l'enseignement. Demain, on a entendu les parents d'élèves, j'aimerais juste qu'on entende les professeurs, parce que ce sont eux, évidemment, qui sont en première ligne face, évidemment, aux élèves et face aux cas, évidemment, potentiels de Covid. Écoutez, ils sont très remontés et ils en veulent, bien sûr, à Jean-Michel Blanquer.
Là, nous, il y a un état d'épuisement, de sidération, de colère face au mépris du ministère qui refuse d'entendre ce qu'on lui dit. Donc oui, l'école et les enseignants sont prêtes à craquer, ça c'est une évidence.
Il nous méprise, il n'a jamais communiqué
aux enseignants et enseignantes. Il a toujours fait par voie de presse. Les gens sont au courant avant nous. Donc oui, il y a un vrai problème de communication avec notre ministre.
Tout ce qui est proposé par le monde syndical ou les contre-pouvoirs syndicaux, rien n'est pris en compte par le ministre, qui reste dans cette espèce de tour d'ivoire, dans sa carapace, qui est toujours un donneur de leçons. On ne fait pas grève quand il y a le Covid, on ne fait pas grève contre un virus. Moi, demain, je ne fais pas grève contre un virus. Hein. Je fais grève contre Jean-Michel Blanquer et la politique du gouvernement en matière d'éducation.
Jean-Claude Dessier, il faut sauver le soldat Blanquer ou il n'a pas besoin de ça ? Il est très soutenu par l'exécutif, malgré les critiques des syndicats.
Il n'a pas besoin de le sauver. Je crois qu'il a été conforté, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, au Conseil des ministres de tout à l'heure. Mm-hmm. Le président de la République, c'est vrai, avait un peu tardé à le soutenir, me semble-t-il. Idem pour le Premier ministre. Là, bon, les choses ont été mises au point. Il est évidemment hors de question de faire partir un ministre à moins de 3 mois des élections présidentielles, et surtout que Jean-Michel Blanquer... Moi, ça ne fait que... Quand j'entends les professeurs, je comprends, hein, ils peuvent avoir des difficultés qui ne sont pas seulement liées à la crise sanitaire et au Covid. Mais quand j'entends d'entrée de jeu, on est contre Jean-Michel Blanquer, dehors le ministre, je ne connais pas, depuis 40 ans que je fais ce métier, je ne connais pas un ministre qui a eu la bénédiction des syndicats d'éducation nationale. Ils sont dans une... Même, comment s'appelait-il, celui de gauche... Allègre n'avait pas eu les bienfaits. Non. Ils sont systématiquement dans l'opposition. Tant mieux. Il me semble qu'il faudrait qu'on se débarrasse dans ce pays. Grève d'abord et discussion après. Je pense qu'il serait temps quand même.
Mais là, il y a une situation de crise, Jean-Claude. Vous êtes au courant qu'il y a le Covid, que
oui,
c'est absolument
COVID,
l'enfer dans les écoles.
Et,
vous êtes
et ça
au courant,
va aboutir à quoi, la grève ? À fermer les classes. Alors que la politique du gouvernement, c'est de les maintenir coûte que coûte ouvertes. Et encore une fois... demander en même temps la démission du ministre de l'Éducation nationale, ben ça signe entre guillemets l'aimable forfait de la grève. Cette grève n'a rien à faire. Ajouter une grève au désordre, ça me paraît pas le plus efficace possible. Ça prouve néanmoins, j'en termine, ça prouve néanmoins que l'Éducation nationale, comme la plupart des grands services publics de ce pays, a des difficultés extrêmes. Et que l'Éducation nationale, ce sera à mes yeux... un dossier prioritaire pour le prochain président, quel qu'il soit.
Alors, Bruno Bonnel, peut-être, de La République En Marche. Il y a un protocole sanitaire dont peut-être vous admettrez qu'il est un tout petit peu délirant.
Oui.
3 autotests en 4 jours pour des petits-enfants. Vous comprenez, vous validez? Ou vous comprenez aussi que les parents...
Mais moi, je suis
disent
parent,
leur colère eux aussi.
Je suis parent, j'ai fait les queues dans les pharmacies. Mm-hmm. Tous les 2 jours, une de mes filles, sa classe, il y a un cas. Donc, on recommence les autotests. Donc j'ai la même frustration, la même colère parfois, mais je me dis qu'on est tous ensemble en train de se battre contre quelque chose qui nous dépasse un peu. Aller chercher les boucs émissaires en disant à bas Blanquer...
Tout a été bien fait, monsieur Bonnel ?
Non, c'est mais je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que c'est un petit peu comme une situation où on réagit en urgence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut trouver des solutions. Ouais. Et non, mais la question, c'est la grève.
La question, c'est aussi le protocole sanitaire,
non,
enfin, sérieux.
Le protocole sanitaire, je ne vais pas vous dire un scoop, je pense qu'il va encore changer. Parce qu'il va encore changer. Parce
qu'on va 3 autotests, ça ne tiendra pas.
Mais non, mais parce qu'on va se rendre compte que ce n'est même pas une question qui s'assoit. Il n'y a personne qui est plus intelligent que les autres dans cette histoire. Il n'y a que, effectivement, l'évolution du variant, les révolutions des chiffres que vous avez évoquées tout à l'heure vont changer. Mais par contre, à ce moment où on doit se serrer les coudes, ressortir le disque de la grève qui va complexifier... Vous avez vu, j'ai dit complexifier, j'ai pas dit un mot que le président utiliserait, probablement, peut-être, mais qui va complexifier la vie des parents.
Allez-y, lâchez-vous.
Écoutez, qu'on se calme. Bon. Qu'on se calme.
Alors,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que.
On va entendre vos opposants après.
Non, mais je pense sincèrement, et si mes opposants disent le contraire, je le regrette, mais je me battrai sur cette idée parce que je pense qu'on est assez proche dans cette idée-là. C'est utiliser, qu'un syndicat utilise à des fins strictement politiques. Moi, j'ai entendu dire, ce qu'on veut, c'est que Blanquer tombe. C'est politique, ça n'a rien à voir avec le virus, ça. Ça n'a rien à voir avec le virus. Qui nous explique qu'ils font la grève parce qu'ils n'ont pas de masque? Ah oui, c'est sûr, pardon, j'ai oublié, on leur livre des masques dès lundi. Ah, zut.
Ah, mais 2 ans après le début de la pandémie, oui.
Bon, attendez, on ne va pas refaire
c'est
le film.
Non, mais
on refait le match ici. On est dans la situation.
Ah, si, on refait tout, là.
C'est pas la bonne émission. Je crois. Et je pense qu'on est obligé de réagir en temps réel.
Rick Diard et ensuite Laurent.
Il ne faut pas faire une fixation sur Blanquer, c'est la situation. Et moi, je dirais à Jean-Claude, on a vu des grèves pour moins que ça.
Oui, c'est possible, ça, oui. C'est dans ce pays, rien ne m'étonne.
Mais il y a ras-le-bol, il y a ras-le-bol généralisé.
Le ras-le-bol est parti, je vous signale, dimanche, qui précède la rentrée, à 18h arrive un protocole de 40 pages. Donc ça, ça a été le début de l'exaspération des professeurs. Entre-temps, le protocole a encore changé depuis lundi. Et c'est sûr qu'il va changer parce qu'on sait très bien que maintenant, ce variant qui est très actif, mais sur les enfants joue peu, et Dieu merci, sauf sur les personnes très âgées ou les personnes à problème, il est peu létal. Donc on sait très bien que dans les jours prochains, on va alléger le protocole. Donc moi je dis, faisons-le maintenant, et donc quand même un petit peu les professeurs. Moi je demande simplement à Blanquer, j'ai rien contre lui, qu'il fasse un peu plus de concertation, et que les enfants ne soient pas les boucs émissaires, parce que je peux vous dire que quand vous faites un test sur les adultes, je peux vous dire que c'est coton, mais alors sur les enfants, c'est une horreur. Quoi.
Trois fois en quatre jours. Monsieur Jacobelli du Rassemblement National.
Oui, Monsieur Benalla nous disait qu'il fallait l'union sacrée hein, face à ce virus, mais j'ai l'impression que le gouvernement là, hein, les parents, les professeurs et les enfants n'en peuvent plus. Ils en ont ras-le-bol de ce protocole complètement disproportionné par rapport à la réalité de la dangerosité de Omicron sur les enfants. Imaginez quand même qu'un jour sur deux, ces pauvres gamins se retrouvent à la pharmacie en train de se faire triturer le nez, ils pleurent avant d'aller en classe. On ne parle plus que de ça. On a l'impression d'ailleurs qu'on ne donne plus cours, mais que c'est simplement une espèce de diagnostic généralisé. Les parents courent de la pharmacie à leur boulot pour aller rechercher les enfants. Tout ça est ingérable avec des professeurs qui se retrouvent à gérer une situation sanitaire en dehors finalement de leurs compétences, avec des protocoles absolument impossible à respecter et qui change tous les quatre matins, ce qui fait que plus personne ne s'y retrouve. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a une forme de ras-le-bol ? Vous pouvez contester sa forme, vous pouvez contester la manière dont c'est organisé, mais plus personne n'en peut. Et d'ailleurs, les mêmes parents qui, le soir, se retrouvent à devoir montrer un passe pour aller au restaurant, tout ça est devenu complètement...
Il faut qu'ils arrivent à faire garder les enfants.
Ubuesque. Marine Le Pen a fait une proposition de bon sens. Oui. Puisque ces gamins, grosso modo, à 99,99%, ne risquent rien. Est-ce qu'on peut pas faire
simplement... Non, pas 99. Il y a 300 enfants hospitalisés en France, donc c'est un peu...
D'accord, mais qu'il y avait des...
64 en rien. Hein.
Qui n'étaient pas anodins, qui avaient des comorbidités, dont on peut le voir. Et donc, effectivement, là-dessus, il faut un traitement particulier. Mais... pour, on va dire, l'immense majorité d'entre eux. Un coup de thermomètre frontal le matin, tant qu'ils ne sont pas malades, tout va bien. S'ils ont des symptômes, on fait un test, on revient à quelque chose d'humain.
Ce qu'on fait tous les ans dès que les gamins sont malades, évidemment.
Et avec lesquels les professeurs sont d'accord. Un peu de bon sens.
L'unité et l'efficacité de la grève qui va fermer des écoles qui est en question. Dans ce que je dis, et j'ajoute juste un petit truc, c'est que heureusement, pour la garde des enfants, le télétravail va aider. Parce que beaucoup de familles, enfin, beaucoup sont au boulot. Ah si, un pourcentage non négligeable.
Pas tous.
C'est pour ça que je dénonce cette grève qui est stupide et inutile, c'est tout.
Qu'est-ce que vous dites, qui dit le gouvernement n'écoute rien ?
D'abord, ce n'est pas vrai, mais bon, on va s'envoyer à la balle, il écoute pas, on va durer 2 heures. On n'a pas 2 heures. Mais par contre, non, mais
les syndicats, les associations de parents d'élèves,
l'opposition, ça fait quand même beaucoup.
Écoutez, nous... Il y a un syndicat
qui allume.
Et je peux vous dire
on va voir demain.
Des propositions depuis 2 ans. Des propositions parfois en dehors même des caméras.
Notamment faire des tests. Oui. Rappelez-vous le film. Rappelez-vous.
On a proposé
fallait faire des tests tous azimuts. C'était la solution.
On a proposé beaucoup de choses. On a eu une fin de non-recevoir sur tout. Par principe. C'est ça le problème. C'est-à-dire que là où vous appelez à la bonne volonté, il faut aussi la bonne écoute de l'autre.
Juste un petit mot important. Un témoignage personnel. Ce week-end, mes filles, qui sont en CM1 et en 6e, vont voir leurs grands-parents qui ont plus de 85 ans. Voilà. Eh bien, c'est ces cas-là qu'on veut éviter. C'est pas protéger les enfants. Il faut un test.
Mais tiens donc.
Au cas le cas.
Alors on fait un test. Et on fait un test.
Bon, alors, Eric, un dernier mot, on va s'intéresser au pass vaccinal.
Je pense qu'il y a une exaspération parce qu'on a promis, moi je me rappelle, Blanquer disait il y aura des tests salivaires partout. Moi, j'ai pas vu d'endroit où il y avait des tests salivaires. Moi, je vois un collège, je dis mais vous avez eu dans ce collège des tests salivaires. On me dit mais on n'a pas des tests salivaires. C'est une exaspération. Je pense que maintenant, c'est une question de jours, une semaine, 2 semaines. Et bien évidemment, je suis dans le camp de Valérie Pécresse. Une semaine de fermeture, on aurait peut-être gagné dans la propagation du virus.
J'aimerais qu'on s'intéresse à ceux dont le pass va être désactivé. Parce que là, samedi, il y a entre 500 000 et 700 000 personnes qui vont voir leur pass sanitaire, parce que ce n'est pas encore le pass vaccinal, désactivé, parce qu'ils n'ont pas fait la dose de rappel au bon moment. C'est intéressant de savoir qui ils sont et pourquoi ils n'ont pas fait cette dose de rappel. Écoutez ces quelques réactions de ceux qui vont se faire avoir samedi.
J'étais resté sur l'idée qu'on avait jusqu'à 6 mois pour faire notre 3e dose. et que du coup, vu que je l'avais fait en juillet, j'étais encore large. Voilà. Donc je vais devoir prendre mon mal en patience pendant 2 semaines.
Ils ont changé un petit peu les directives, donc on est un petit peu perdu dans tout ça. Et oui, on va se retrouver à pas pouvoir sortir de chez nous, quoi. Pas aller au café, pas aller au bar, pas aller au restaurant, donc au cinéma, ouais. N'importe où, quoi, maintenant, vu que c'est obligé.
Je vais faire 100, c'est-à-dire que moi, je pars dans l'idée qu'on va pas vivre avec un pass vaccinal toute la vie. Je sais pas combien de temps ça va durer, maintenant je vais attendre, tant pis, j'aurai plus restaurant, plus de cinéma, plus rien, plus vie sociale. Parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est une atteinte à la liberté.
Atteinte à la liberté, vous êtes évidemment d'accord, M. Jacobelli?
Oui, bien sûr,
et atteinte à la liberté. Au Rassemblement national.
Oui, disproportionnée. Parce que par rapport à la réalité de la dangerosité du virus, par rapport à la réalité de l'efficacité du vaccin. Attention, hein, soyons très clairs, c'est très important de se faire vacciner, ça protège des formes graves à titre individuel. Or, on sait que malgré tout, ce vaccin, il faut le refaire tous les 3 mois. Les médecins eux-mêmes disent qu'ils ont été assez déçus par l'efficacité. Mmh. On peut attraper la Covid et on peut la transmettre en étant vacciné. Tout ça donne un environnement qui fait que les restrictions de liberté qui font que certains, qui emmerdent apparemment le président de la République et qui sont non vaccinés, vont demain ne plus pouvoir soit travailler, soit prendre les transports, soit vivre une vie normale. Dans une République comme la nôtre, c'est extrêmement gênant, surtout qu'on va tous être l'emmerdeur du président un jour ou l'autre à la jointure des 3 mois. C'est-à-dire que la vie qu'on offre aux Français, c'est que pour avoir une vie en mode dégradé quand même, hein, avec toujours son passe à côté de soi, il va falloir tous les 3 mois aller prendre sa dose de vaccin. Tout cela n'est pas compréhensible.
Moi, j'espère que vous exagérez un peu.
En tout cas, la 4e dose est à l'étude.
En tout cas, on se dirige vers ça, monsieur Dacier.
Les
Français ont goûté de toutes ces promesses, hein, rappelez-vous.
Non, mais on verra. Faites-vous
vacciner 2 fois, vous aurez une vie normale.
Moi, j'ai vérifié hier que mon vaccin à double dose n'était plus valable. Heureusement, j'ai retrouvé sur mon téléphone la 3e dose de rappel. Il faut faire la 3e dose de rappel. Et vous avez raison, il y a des millions de Français qui ne l'ont pas fait et qui vont se retrouver sans passe sanitaire en attendant le passe vaccinal. C'est un problème quand même.
Alors, j'ai entendu quand même dans ces témoignages, les deux premiers, enfin, ils semblaient de bonne foi. Ceux-là, ils ont oublié. Oui. C'est là où il y a les tergiversations, ils ne savent plus où ils en sont. Ils disent on ne sait plus, il faut le faire quand. Donc c'est bien. Il faut faire de la pédagogie, c'est bien dans les émissions de télévision de dire c'est le moment, il faut faire un peu activer, parce qu'il y a toujours, vous le savez très bien, même des gens de bonne foi, il faut leur rappeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'ils finissent par dire « Ah oui, c'est le moment ». Donc, il y a quand même des personnes de bonne foi, et je souhaite que ces personnes de bonne foi passent en priorité.
Alors, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on continuera à parler de ce pass vaccinal qui va peut-être entrer en vigueur au moment où l'épidémie va décroître, ce qui serait un petit peu paradoxal. Et puis, on parlera aussi des violences contre les élus. On entendra Brigitte Macron dire qu'elle redoute beaucoup la violence pendant la campagne et la haine pendant la campagne présidentielle. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va revenir dans un instant au pass vaccinal et à la situation sanitaire. Mais avant, j'aimerais qu'on s'intéresse au sort des 2 délinquants qui ont projeté au sol violemment il y a 2 jours à Noisy-le-Sec un homme. Ils l'ont traîné sur 100 mètres par le col de son manteau en voiture. Ils seront présentés demain à la justice. On va faire dans un instant un petit focus sur ce qu'ils risquent. La justice peut évidemment demander à leur encontre. Mais d'abord, on vous fait un petit récapitulatif des faits avec le témoignage d'Ali. Cet homme de 67 ans, écoutez.
Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Ali, un retraité de 67 ans, raconte son calvaire. Ce week-end, il déambule dans le centre de Noisy-le-Sec lorsque des jeunes en voiture l'interpellent.
Il m'a dit « Ali, est-ce que tu as une cigarette ?» J'ai dit « Ouais, je vais t'en donner une. » J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette, il m'a pris la main. Il m'a dit « Maintenant, tu vas courir. »
Il est alors traîné sur 100 mètres. Son agresseur finit par le lâcher, blessant sévèrement le retraité.
J'ai fracture de la tête de l'humérus, fracture du pied, une ecchymose au genou, bien les rappeler, au visage, j'ai recousu à l'arcade, mais ça va quand même.
Ali porte plainte, mais peu de temps après, un jeune homme tente de faire pression sur lui.
Il m'a dit, si tu retires ta plainte, le gars, il te donne 1000 euros ce soir. Et je l'ai dit au commissariat, je leur ai dit, j'acceptais pas, même c'est pas honnête quoi, j'ai dit non.
Sur le plateau, il témoigne avec son neveu Hossine. Il a découvert la vidéo sur les réseaux sociaux avant de savoir que l'homme agressé était son oncle.
Sur le moment, j'avais qu'une envie, c'est de...
De vous rendre justice vous-même.
Exactement. Effectivement, j'étais très en colère. mais on a demandé à tout le monde d'apaiser les choses.
La vidéo amateur montre une deuxième victime qui ne s'est pour le moment pas fait connaître. De nombreux signalements de la vidéo ont été effectués sur la plateforme Pharos, permettant d'identifier rapidement le conducteur. Un second suspect s'est ensuite rendu de lui-même mardi matin aux enquêteurs. Pour violence avec arme en réunion, les deux hommes encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Voilà, on est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Qu'encourent les deux hommes, les deux délinquants, à la fois celui qui conduit la voiture et celui qui filme avec son téléphone portable, Sandra?
Il faut savoir que c'est la même peine encourue par ces deux personnes. C'est ce que prévoit le code pénal pour ce phénomène de happy slapping, cette pratique qui consiste à filmer une agression avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, celui qui filme l'agression risque la même peine que celui qui commet les violences. Dans cette affaire, donc, si la qualification actuelle est maintenue, à savoir violence volontaire aggravée avec une ITT de plus de 8 jours, ils risquent donc tous les deux jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Un mot pour préciser que celui qui met en ligne la vidéo peut risquer quant à lui jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais il faut bien garder à l'esprit que pour l'instant, on ne sait pas si dans cette affaire, celui qui a filmé est aussi celui qui a mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux.
Sandra, on n'en sait plus sur le profil des deux hommes, deux délinquants qui ont déjà été condamnés pour violence, c'est ça ?
Oui, alors chacun des deux a déjà été condamné dans le passé pour des faits de violence, mais on n'a pas d'informations sur la peine qui a été requise à leur encontre et qu'ils ont ou non effectuée. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tous deux âgés d'une vingtaine d'années, qu'en garde à vue, ils ont reconnu l'agression du retraité dont nous avons diffusé le témoignage, Ali, tous les deux, donc celui qui est suspecté d'avoir traîné l'homme par la fenêtre du véhicule et celui qui est soupçonné d'avoir filmé l'agression, vont être présentés à un juge d'instruction demain matin en vue d'une éventuelle mise en examen pour donc violence volontaire aggravée avec ITT de supérieur à 8 jours. Ça veut dire que les investigations ne sont pas terminées, elles vont se poursuivre, notamment pour identifier s'il y avait d'autres personnes dans cette voiture et s'il y a possibilité d'identifier la troisième victime, celle qu'on voit aussi sur cette vidéo. Vous savez qu'il y a Ali, la victime qu'on a identifiée, dont on a recueilli les témoignages, une deuxième personne sur cette vidéo et une troisième personne qui s'est présentée d'elle-même au commissariat cette semaine pour dire qu'elle avait été victime des mêmes faits. Le juge des libertés et de la détention décidera demain dans la journée s'il décide que pendant la poursuite de cette enquête, les deux suspects doivent être placés libres sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Merci pour ces précisions, Sandra Buisson. Laurent Jacobelli, c'est un signe de l'ensauvagement de notre société, cette scène.
Oui, malheureusement, parce que cette scène, elle est très frappante, elle est parue sur les réseaux sociaux, donc on en a connaissance, on en débat aujourd'hui, mais des actes gratuits de violence, il y en a tous les jours partout. Hein. Vous savez, il y a 2000 agressions en France chaque jour. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est en augmentation très sensible parce que depuis des décennies, il faut être très clair, ça a commencé avec la droite d'ailleurs, hein, et ça a continué avec la gauche et le centre, eh bien la justice envoie un signal terrible, une espèce d'autorisation, d'impunité pour un certain nombre de délits. Pourquoi ? Tout simplement parce que les peines souvent ne sont pas appliquées, il y a un recours au sursis ou aux peines de substitution quasiment automatiques, et donc avec Marine Le Pen, clairement, nous voulons rétablir une justice au service des victimes, c'est-à-dire pourquoi pas rétablissement de la double peine, arrêt des remises de peine automatiques, que le sursis redevienne un vrai sursis, c'est-à-dire qu'un sursis, on n'effectue pas sa peine au premier délit, mais si on recommence, eh bien là, on cumule les peines. Or, aujourd'hui, il peut y avoir 2, 3, 4 sursis sans que les délinquants aillent en prison. Et donc, il faut maintenant clairement envoyer un signal, siffler la fin de la récré. La violence, c'est puni par la société et la justice doit faire respecter l'ordre républicain et les lois. Les voyous ne sont pas les victimes de la société, comme le pensent beaucoup de juges et beaucoup de politiques. Non, 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 ils pourrissent la vie des honnêtes citoyens.
Éric Diard, il faut une réponse
immédiate.
Oui,
mais il faut remettre les choses dans le contexte, parce qu'il y a 10 ans, Rachida Dati n'était pas une ministre laxiste, et il n'y avait pas un tel ensauvagement. C'est un état de la société, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais moi, je souhaite quelque chose, c'est horrible. Et quand j'ai vu hier cette vidéo sur les réseaux, j'ai dit à certains, arrêtez de la diffuser. Arrêter de la diffuser parce que j'avais peur que cette vidéo devienne virale et que ça devienne un effet de mode. Vous savez, les autres abrutis vont dire, oh ben tiens, mais nous on va faire pareil aussi. Donc moi je souhaite quand même quelque chose. Hier j'ai rencontré une magistrate en off. Elle m'a dit, il nous arrive parfois que la chancellerie nous dise, bon, on préconise d'essayer d'éviter la mise en détention parce que nos prisons sont pleines. Par contre, la chancellerie peut faire aussi un ordre contraire, dire, sur ce type d'affaires, qui sont très graves, où cette personne aurait pu mourir la tête fracassée sur le trottoir, on donne des consignes très strictes, c'est un emprisonnement obligatoire pour éviter que se reproduise de tels faits, qu'il y ait une sorte d'effet de mode, ce qui serait complètement aberrant, mais c'est possible avec les abrutis qui sont dans notre société.
Il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, hein, Bruno Bonnel. Alors, évidemment, c'est souvent la peine maximum n'est jamais prononcée, mais si ça se rajoute à des peines précédentes, ça peut aller haut.
Écoutez, dans le cas précis, je ne suis pas juge, hein, mais si j'avais à réfléchir à ce que j'ai vu, je suis d'accord avec Éric Diard. Un, arrêt immédiat et responsabilité des plateformes sur la diffusion de ce type d'images. Parce qu'il a utilisé le bon mot, j'aurais utilisé abruti. Ce sont des imbéciles, heureux, délinquants ou pas délinquants, qui font ce genre de choses. Et là, clairement, il y a une intention inconsciente, mais de donner la mort. On peut mourir de cet accident. Donc, moi, j'ai pas de préserve à dire. S'ils prennent la peine maximum, eh ben, qu'ils la prennent.
Jean-Claude, un mot là-dessus ?
Un mot,
on va parler de la délinquance et de la violence après.
Peut-être le pire de tout, sans excuser le geste qui précède, mais qu'ils ont été assez idiots. Pour ne pas dire plus, le mot est faible, idiot, pour mettre leur exploit sur Internet, enfin sur un réseau Facebook, semble-t-il, et que c'est grâce à cela que des professionnels de la police ont pu immédiatement s'apercevoir de la gravité des faits, de remonter très vite la entre guillemets la petite filière et les mettre en garde à vue. Mais je suis comme vous, j'attends avec une certaine impatience ce que va décider le parquet. De la région, je crois aux vertus de l'exemplarité de la sanction. Si elle est nécessaire sur un fait comme celui-là, c'est une évidence. La justice doit se saisir de la gravité des faits. Moi j'ai honte, enfin franchement, que des crétins puissent s'amuser avec un pauvre type et une nana sympa, semble-t-il, au risque de le tuer, mais et de s'en amuser. Mais on est où là?
Enfin, proposer 1000 balles pour Istèze.
Et ensuite, mais je veux dire, c'est plus supportable. Et j'ajoute et termine, je trouve que le président de la République n'est pas à l'heure qu'il est, au rendez-vous de la situation telle qu'elle se dégrade
sur
dans
sécurité.
Notre pays.
Alors, Laurent Jacobelli.
Ça aura été un des gros échecs d'Emmanuel Macron.
Parce c'est pas
que,
fini.
Non, mais attendez, c'est pas fini, il reste quelques mois. Je pense que c'est plié. Hein. Où sont les 15 000 places de prison qui nous sont promises? Alors, elles nous sont promises pour la fin du prochain quinquennat, mais enfin, on le fera, c'est vrai.
D'accord, mais le RN peut pas être d'accord.
On le fera, c'est vrai, mais clairement, on ne peut pas compter sur vous là-dessus. Pourquoi est-ce que ces gamins, je ne sais même pas si c'est des gamins,
23,
vous avez
24,
raison, ont été assez bêtes pour mettre ça sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a ce sentiment d'impunité, ce sentiment que la justice ne peut rien, ne fait rien. Vous discutiez hier avec une magistrate, moi je discutais hier aussi avec un policier, qui me disait qu'ils avaient des ordres, pour arrêter les poursuites après certains rodéos, pour ne pas créer le feu dans les banlieues. Écoutez, je ne remets pas en cause, moi, la parole de l'officier que j'ai vu hier. Excusez-moi de vous le dire. Non, franchement, je ne pense pas. On le voit bien, il y a une espèce de pas de vague. Hein. On ne touche pas à un certain nombre de petits délinquants parce qu'il n'y a pas de place en prison et parce qu'on ne veut pas mettre le feu. Eh bien, il faut maintenant avoir le courage d'arrêter ces délinquants, créer des places de prison et même des centres de rétention pour mineurs, évidemment allégés, hein, pas avec les dealers. Pourquoi la peur du gendarme? Ça aide dans la vie, c'est un bienfait.
Mais
ça
trace la limite entre le bien et le mal. Et c'est ce que disait aussi ce monsieur-là qu'on entendait, c'est qu'on lui a demandé de se taire, on lui a proposé de le payer pour qu'il n'aille pas porter plainte.
Mais si on lui a demandé de le payer, c'est derrière, il y a des trafiquants. C'est-à-dire 1000 euros pour ça, ça veut dire que derrière, évidemment, ils ont des casiers, mais on le comprend. Ces gens-là ont fait autre chose que ça. Mais ces gens-là, là, ils ont décidé que c'était pas criminel. On allait s'amuser, on allait rigoler, se filmer, tous les copains allaient liker. Mais vous voyez l'inconscience où on en arrive. C'est pour ça que j'en appelle quand même à Éric Dupond-Moretti. La consigne doit être, ils sont automatiquement en prison.
Il n'a pas l'autorité là-dessus. Il n'a pas l'autorité là-dessus.
Il n'a pas l'autorité sur la place. Heureusement. Il ne faut pas être totalement naïf sur la place et le rôle de garde des
sceaux. C'est qui la chancellerie?
Non, mais bon, encore une fois, vous savez, c'est la spécialité, je sais, de mon voisin, mais on ne mélange pas tout. Pourquoi le président de la République n'intervient pas? Parce qu'il va laisser quand même la justice au minimum.
Mais pas sur ce fait divers-là, Bruno Bonnet.
Il n'a pas à chaque fois.
On l'attend sur une politique globale.
De sécurité.
De la
politique globale, c'est qu'effectivement, on a augmenté le nombre de policiers.
loyer de 10 000 comme prévu. Effectivement,
les lancements... Je parle de la justice, là, en l'occurrence.
Non, mais les lancements de places de prison sont faits. Vous le savez, on a déjà débattu sur ce plateau. Il faut 7 ans minimum pour construire une prison.
Et parce que... On peut faire mieux.
Non, mais...
Je veux dire, pourquoi
les Yacarfoucon, il est facile. On le fera. On le sait que ce n'est pas vrai. Mais on le sait que ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire on le fera quand on sait qu'il y a des...
Confiez-les au privé.
Est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé à midi? Je vais vous le dire. J'étais dans une brasserie à côté de notre QG de campagne. Jusqu'à là, c'est pas passionnant. Je déjeunais avec des amis. J'ai vu arriver trois policiers qui sont venus et qui m'ont demandé mon passe sanitaire.
Évidemment.
Très bien. Très gentiment, un peu gêné d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très à l'aise dans cet exercice. Une très grande brasserie. Ils ont dû passer entre une demi-heure et trois quarts d'heure dans cette brasserie. Eh bien moi, je pense que pour reprendre les mots de votre président de la République, plutôt que d'emmerder les honnêtes gens, il ferait mieux d'aller emmerder les racailles.
Alors, Éric, dire un petit mot, puis on va écouter Gérald Darmanin.
Moi, c'est très bien, attention, deux exemples. C'est très bien d'augmenter les effectifs de policiers, je le dis. Mais... Et je rappelle un rapport.
Dites-le à Mme Pécresse.
Non, mais je dis un rapport. Je dis un rapport de la Cour des comptes a dit ces policiers sont trop souvent affectés à des tâches administratives. Deuxième point, le renseignement pénitentiaire. Quand j'ai fait le rapport sur la radicalisation avec le député LAREM Éric Pouillat, j'ai dit ah ben les effectifs augmentent, c'est une bonne chose. Et là, nous avons eu la commission d'enquête. Que nous disent les syndicats? Ils disent oui, il y a une augmentation dans le renseignement pénitentiaire, mais malheureusement. Les politiques ne savent pas qu'ils sont affectés à des tâches administratives. Et ils disent pas que c'est Macron, ils ne le savent pas. Mais par exemple, il y a une personne du renseignement pénitentiaire pour 23 centres de détention dans le Grand Est. Oui, et ça, on croit qu'il y en a, mais malheureusement, ils sont cantonnés dans des tâches administratives.
J'aimerais qu'on vienne sur les chiffres de la délinquance, parce que les Républicains en manient beaucoup de chiffres, hein, d'augmentation de la délinquance, des vols, etc. Ouais. Gérald Darmanin, qui était mon invité ce matin sur CNews, a une autre vision, évidemment, des chiffres de la délinquance. Écoutez.
La délinquance, en général, dans notre pays, elle baisse. Et elle baisse continuellement depuis 3 ans et demi. Et notamment, il y a une baisse extrêmement importante des vols avec ou sans armes, donc physiques, ou des vols qui se font par ruse, comme on les appelle, des vols de véhicules, des baisses des cambriolages. C'est un fait continu, indépendamment du Covid, je voudrais bien le préciser, il y a une baisse continue de ces méfaits qui touchaient la vie de nos concitoyens, qui touchent encore nos concitoyens sans aucun doute, il y a encore beaucoup de travail, mais qui baissent. Et puis il y a deux augmentations de violence. Les augmentations de violence contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, les policiers, les gendarmes, les élus. Et puis il y a les violences intrafamiliales et les violences conjugales.
Donc ce serait, Éric Diard, parce qu'il y a des violences conjugales que les chiffres de la délinquance augmentent?
Mais écoutez, il est habile, enfin on le connaît Gérald Darmanin, premièrement il dit les cambrioles, l'âge et les vols ont diminué, hors Covid. Mais bien sûr, il dit hors Covid, mais je vous signale qu'en 2020, on était en télétravail, on était chez soi, c'était plus difficile d'être cambriolé que lorsqu'on part sur son travail. Deuxième point, il y a quand même une violence sur les personnes qui a augmenté, pas seulement les personnes dépositaires de l'autorité publique. Bien sûr qu'il y a les élus, mais les violences sur les personnes ont augmenté, les cambriolages ont diminué. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Alors, il dit que la moitié, il est
habile. Attendez, pas tous en même temps.
Le nombre d'agressions à la personne ont augmenté. Les deals, on le voit bien, le chiffre d'affaires, entre guillemets, hein, de la vente de drogue a explosé. On parlait tout à l'heure de 2000 agressions par jour. On a parlé de la violence contre les pompiers, les policiers, contre les élus. Cette tendance à l'autosatisfaction de notre gouvernement qui nous explique que les indicateurs économiques sont au vert alors que notre dette bat un record historique, que le chômage va mieux alors qu'on a plus de chômeurs toutes catégories que quand le président de la République est arrivé. Là, sur la sécurité, clairement, tous les Français le voient. Ça se dégrade et ça se dégrade à vitesse grand V. Surtout, ça touche aujourd'hui des zones qui étaient épargnées. Il y avait avant les périphéries urbaines, il y a maintenant les centres urbains et aussi les zones rurales. Et donc, on n'est plus à l'abri nulle part. Et donc, il faut maintenant faire un vrai constat des choses pour régler les problèmes. Oui, l'insécurité augmente et elle augmente massivement.
Bruno Bonnel.
Non mais bon, je veux bien qu'on puisse critiquer un bilan que propose le ministre de l'Intérieur. Je veux bien... Mais bon, les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres, d'autre part.
En matière de statistiques de sécurité, oui, on leur fait dire un peu près ce qu'on veut, cher ami.
On décide sur ce plateau, ça serait intéressant qu'on ne parle plus jamais de
ces chiffres. Ces chiffres ne valent pas dire grand-chose, je suis d'accord.
Et qu'on est juste dans l'estomac et l'impression.
Qu'il y a une augmentation de la violence dans ce pays n'est pas politiquement sérieux.
Mais attendez, il l'a dit. Il y a deux violences visibles. Et je vais en rajouter une troisième. Je pense que les incivilités augmentent.
Mais
ce qui ne sont pas des violences aujourd'hui. Mais qui a voté, par exemple, la loi contre les rodéos? Ah non, mais la République en marche. C'était considéré comme une incivilité.
Et qui a demandé de ne pas l'appliquer à ces policiers?
Mais arrêtez, mais ben ça, oui, c'est pour ça que alors, vous ai repris. Il y a eu des centaines, voire des milliers de captures sur site de mobilettes dès que les mecs sont érodés. De saisie, merci. Cherchez le mot.
Si les chiffres de monsieur le ministre sont exacts, pourquoi augmente-t-il de manière spectaculaire le nombre de policiers? Pourquoi le président de la République nous annonce, j'ai fini, 1 milliard de plus chaque année pendant les 5 ans qui viennent.
Parce qu'on rattrape 20 ans
par rapport à une situation de politique qui s'est dégradée.
Parce qu'on rattrape 20 ans.
Allons.
Mais les violences sur les personnes, c'est là où il ment par omission, qui dit il y a violence sur les personnes dépositaires. Non, violence sur les personnes, les chiffres ont augmenté. Il y a moins de cambriolages, mais les violences sur les personnes ont augmenté, et pas simplement les dépositaires de l'autorité publique. Bien sûr qu'ils y sont. Là, ça a explosé. Évidemment. C'est plus pareil. Les pompiers, les policiers, les chiffres ont explosé. Mais les violences sur les personnes, elles ont augmenté.
Et c'est dommage. Il y a eu un trou de mémoire, Monsieur parce Jacobelli. Que s'il n'avait pas eu de trou de mémoire, il aurait pu nous préciser aussi qu'il y avait eu une augmentation des homicides de 12%, des agressions sexuelles de 29%, et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cité tous ces chiffres très éloquents.
Allez, on continue à parler de la sécurité dans un instant, je repasserai la parole à Jean-Claude, mais vous la direz dans un instant, juste après la pause, on se retrouve, on évoquera cette question des violences, violences contre les policiers, contre les forces de l'ordre et contre les élus. On entendra aussi Brigitte Macron qui dit « redouter la haine ». C'est important, les mots ont un sens, la haine dans la campagne présidentielle. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Éric Diard, Laurent Jacobelli et Bruno Bonnel. On évoquait la question de la sécurité et de la délinquance. Jean-Claude, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que vous voulez rajouter après les chiffres donnés par Gérald Darmanin?
Que j'ai écouté avec attention M. Darmanin ce matin chez vous. Si ça doit être la ligne présidentielle...
C'est-à-dire que tout va bien?
Pas tout va bien, mais enfin, ça va. On a fait à peu près le job et c'est pas mal. Avec ce que j'ai annoncé sur la police et rien d'autre sur la justice. Si c'est la ligne présidentielle, on verra le résultat.
Donc vous n'êtes pas sûr du résultat?
Je suis à peu près sûr du résultat. Et à mon avis, il ne sera pas très positif.
On déclare la guerre à la drogue depuis 2 ans avec des résultats. Une ligne où on augmente le nombre de policiers. Non. Une ligne où les constructions de prisons ont commencé.
Une ligne où la
réforme de la justice est en route. Ben, moi, je dis, c'est déjà une première étape.
La réforme de la justice, mais elle est où, la réforme de la justice?
Éric Diard, les Républicains.
Enfin, moi, je suis un peu offusqué sur les prisons. Sur les prisons, ils ont annoncé 15 000. Les chiffres qui ont été faits, c'est 2 000. Et ils disent 15 000, ça sera 2027.
Il n'y a pas une volonté.
Et c'était qu'un tract.
Excusez-moi, ce sont des arguments parfois, et avec tout le respect que j'ai pour le ministre, mais ce sont parfois des arguments de bonimenteurs, ce sont des tweets en soutien, ce sont des annonces tonitruantes, mais les faits, ils sont là. Les gens, ils voient que parfois, dans leur barre d'immeuble, il est compliqué de rentrer chez eux parce que l'ascenseur est occupé par des dealers.
Pareil,
ils voient que...
Ils
voient, d'accord, mais ça continue et ça s'amplifie. Ils voient que leurs filles, le soir, se font insulter quand elles ont des jupes trop courtes. Ils voient bien... que pour un mauvais regard, on peut se faire prendre un coup de couteau. Tout ça, ils le voient. Et ils voient aussi que des mesures assez logiques, des mesures de bon sens, comme renvoyer chez eux, par exemple, les citoyens étrangers ayant commis des crimes et des délits, tout cela n'est pas appliqué. Alors, au bout d'un moment, il peut nous raconter des sornettes, nous chanter des fables. Les Français voient la réalité. Et ils savent que ce que n'a pas fait M. Darmanin, eh bien, nous le ferons parce que nous le disons depuis des années, nous avons les mesures.
Il a annoncé ce matin, Gérald Darmanin, la fermeture d'une mosquée à Cannes, Éric Diard, une mosquée où il y aurait eu des prêches tenant des propos antisémites. À l'instant, le recteur et l'imam de cette mosquée estiment que c'est une décision injuste et injustifiée. Il faut continuer à fermer les mosquées.
Mais les mosquées qui prêchent la haine, il faut les fermer. Mais je vous signale que le maire de Cannes, David Lisnard, l'avait signalé depuis un moment.
Oui, oui.
Avait dit,
à la demande de
David Lisnard. Avait dit, attention, il en reste quand même actuellement 27. 27 qui prêchent la haine. Et la problématique, il faut donner un arsenal juridique beaucoup plus fort pour faciliter la fermeture. Aujourd'hui, pour fermer une mosquée, je peux vous dire, c'est sous contrôle du juge administratif, je peux vous dire, c'est coton. Donc c'est, on est dans un état de droit, mais quand on me dit on ferme, je dis bravo, mais quand on me dit il en reste encore 27 qui sont radicalisés et qui où les imams officient, je dis là il y a encore du travail à faire.
Oui, c'est même beaucoup plus puisqu'on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté de les construire. Moi dans ma région à Strasbourg, alors là pour l'instant ce n'est plus financé par la mairie qui voulait donner 2,5 millions pour la construction d'une mosquée miligorus qui aurait été la plus grosse mosquée radicale d'Europe sur le sol français au vu et au su de tout le monde. Donc il est urgent de réagir, non pas contre une religion, mais pour la sécurité de nos compatriotes et contre une idéologie qui a décidé la perte de notre pays, de nos valeurs et de ce que nous sommes. Et là-dessus, si je peux me permettre, il reste en France 4000 fichiers S pour radicalisation, étrangers qui ne sont toujours pas renvoyés chez eux. Il reste, vous disiez 27, malheureusement on est plus proche de la centaine des mosquées radicalisées où l'on prêche la haine des homosexuels, des juifs, de l'Occident, qui sont toujours ouvertes. On continue d'accueillir des prêcheurs étrangers dont on ne connaît pas le prédigré et qui font des prêches en langue étrangère. Tout cela n'a pas changé. Il est temps de prendre la mesure de l'urgence.
Je dis 27 parce que ce sont les chiffres du ministre de l'Intérieur. Vous, vous dites 100, je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Peut-être qu'il y en a sûrement plus que 27.
Mais musulmans,
etc. Attention. Miligorus, frère musulman, ne veut pas dire systématiquement prêcher la haine. Miligorus, il y a une proximité avec le régime turc qui pose quand même problème. Mais attention, c'est pas l'obédience signifie pas obligatoirement la radicalité. Il faut être prudent, mais on a un renseignement territorial sur le terrain qui sait très bien. Ce qu'il faut, c'est donner un arsenal juridique très fort pour faciliter les fermetures.
Et on a commencé en donnant par exemple la transparence sur le financement des mosquées, ce qui est une réalité.
Ça a commencé,
on l'a fait pendant cette loi, loi Darmanin. On a fermé effectivement des mosquées. Et je suis d'accord avec Eric Diarc, c'est excessivement compliqué, qu'il faut simplement le simplifier. On peut être frustré, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté d'arranger les choses.
Elle n'est pas vraiment et clairement exprimée. Quand je parle de politique globale de sécurité, c'est police et justice. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je sais bien qu'officiellement, chacun est chez soi. Mais il faut que le président de la République soit dans son discours pendant la campagne.
Il y a une vraie réflexion à avoir sur le pouvoir judiciaire, je suis d'accord
avec
vous.
Ça me paraît évident,
mais je ne la vois pas venir. Exécutif.
Et que Darmanin se batte, il a des succès, il a des difficultés, il fait le boulot.
Et Dupond-Moretti aussi. Hein.
Oui, Dupond-Moretti, son silence est assourdissant.
Non,
pardonnez-moi.
Vous l'entendez peut-être pas, Jean.
Non,
il le fait. Allez, un dernier mot là-dessus.
Il a fait le pôle sur les cold, comment on appelle ça, les dossiers.
Cold case.
Les cold case, les dossiers qui sont très anciens et qu'on va essayer de résoudre. C'est très bien.
C'est quand même dur en même temps. Vous avez un ministre de l'Intérieur à droite qui essaie de se calquer sur Sarkozy et Éric Dupond-Moretti qui est hostile à l'incarcération et qui est de gauche. Il s'en cache pas. Et dans son passé, voilà, quand il est arrivé visiter la prison, les prisonniers l'ont acclamé.
Du sentiment d'insécurité. Je pense que c'est un peu court. Voilà.
On oublie un thème et je vais me permettre de le ramener au cœur du débat aussi. C'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières migratoires complètement incontrôlées, parmi lesquelles s'infiltrent, et on le sait parce que malheureusement on en a souffert, des apprentis djihadistes. Et là encore, aucun contrôle quasiment n'est fait à nos frontières. Et donc il faut maintenant, je pense, prendre la mesure de la réalité.
On va pas repartir.
Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le discours présidentiel. Il va être candidat, il l'est déjà, tout le monde le sait. J'attends qu'il me dise et qu'il dise aux Français ce qu'il va faire dans ce domaine hyper sensible et hyper important.
Et pas du en même temps.
Point.
Alors,
si ça vient pas, maintenant.
Vous parlez du président, on va peut-être écouter son épouse, parce qu'elle s'est exprimée à l'heure du déjeuner chez nos confrères de TF1. Elle a dit redouter la haine qui va se déployer pendant la campagne présidentielle. Écoutez-la.
Moi, je crains la violence, en général. Je crains la violence quand elle n'est pas maîtrisée. Je crains la haine. Je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, parce qu'on va de plus en plus loin. Est-ce que vous dites, les élus sont des gens qui sont engagés. Pourquoi s'en prendre de cette manière-là aux élus avec autant de violence? Où est la limite? Je pense que c'est aussi, je pense qu'on ne s'est pas assez protégé de cela et qu'on a laissé passer beaucoup trop de choses et que maintenant on est dans une espèce de spirale et il est toujours temps de revenir en arrière.
C'est intéressant ce que dit
Brigitte
Macron.
Ben oui,
elle dit on a laissé passer trop longtemps chose, les incivilités, puis après c'était des agressions, puis après les insultes, puis après les coups.
Et on a vu les sanctions, c'est-à-dire on a vu des élus se faire frapper, mm-hmm. et il y avait à l'époque un rappel à la loi. Alors maintenant c'est un stage de citoyenneté. Ça a été, voilà, il y a eu trop de laxisme sur les auteurs de violences, sur les policiers, sur les pompiers, sur les élus.
Elle a parlé d'une spirale, et on peut revenir en arrière, et je suis persuadé qu'on peut. Mais n'oublions pas qu'il y a une partie de l'opposition, bah, qui n'est pas représentée ici, hein, mais qui considérait que l'élu de l'époque était de toute façon probablement quelqu'un dont il fallait se méfier, qui était un profiteur. Enfin, moi,
Vous parlez de qui, là, soyez clair. Parce que...
Mais non, mais quand on entend, par exemple, que les forces de police, par exemple, sont des éborgneurs pendant la crise des Gilets jaunes...
On entend forcément ça.
Il y a une assimilation au fait que porter un uniforme n'a plus de sens si ce n'est pour agresser la population. Dieu sait si on s'est toujours battu pour dire le policier. Okay. On a même d'ailleurs ensemble voté une loi là-dessus, parce que là-dessus on était d'accord, sur la protection justement. Rappelez-vous les fameuses discussions qu'on a eues autour de l'article 24, etc. Mais dans le cadre d'une loi qui était pour protéger les gens qui portaient un uniforme. Eh bien, les élus, moi je suis assez d'accord avec Mme Macron, même je suis tout à fait d'accord avec elle, l'élu, c'est pas banal de l'agresser. Et quand je vois encore récemment...
Le président a pris une gifle, hein, il y a pas si longtemps.
Non, mais quand je vois encore récemment qu'il y a des peines qui sont finalement considérées comme deux catégories de citoyens à citoyens sur un élu, je dis non, il faudrait là que la justice se réveille un petit peu et dise attention, c'est un élu.
Monsieur Jacques Messier,
on est d'accord.
Tout ce qu'on vit, c'est-à-dire ces agressions vis-à-vis des élus, on parlait tout à l'heure des agressions vis-à-vis des forces de l'ordre, parfois des pompiers, des médecins qui vont dans certains quartiers, c'est aussi, il faut le dire, un refus de la nation française, un refus de reconnaître nos règles, un refus de reconnaître ses représentants et nos symboles. Parce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas le seul problème, mais c'est un des problèmes, des poches en France, des endroits qui sont des endroits ultra communautarisés, où on ne reconnaît pas la France comme étant la nation... Qui vous parle de Saint-Pierre-et-Miquelon?
Parce que c'est là où il y a eu la première agression physique d'un élu, Saint-Pierre-et-Miquelon.
De prendre un peu de débat, un peu de hauteur et d'élargir le débat. Il y a des endroits où on ne reconnaît pas la France comme étant le pays dans lequel on est, qu'on n'adhère pas aux valeurs de la France et que tout ce qui en est le symbole peut être agressé. Et là, les politiques, y compris le président de la République, ont un rôle essentiel à jouer. Moi, quand j'entends, et je vous le dis très sincèrement, le président de la République parler de crimes contre l'humanité en parlant de l'Algérie, quand je l'entends dire que certains policiers, commettent des délits de faciès et des crimes racistes, peut-être l'a-t-il oublié, moi je ne l'ai pas oublié. Malheureusement, il envoie un signal comme quoi la France, ou la police, ou les élus, sont une bande adverse, un clan adverse, et il faut réunir la France et redorer l'image de la France partout dans le territoire.
Éric Diard.
Oui, les violences, ça fait attention. Les violences, c'est de manière générale le pauvre maire de Signes qui a été tué.
C'était pour une décharge.
C'est pour une décharge
illégale. Hein.
On avait vu ici sur ce plateau le type qui se faisait frapper devant chez lui par le mari et la femme. C'était des Français d'origine française.
Non, mais ça dit quelque chose de l'état de notre société.
Le président doit savoir qu'on est sur des charbons. Lui aussi, il doit être comme Brigitte Macron. J'ai trouvé qu'elle avait un discours qui apaisait. Le président de la République ne
doit pas. Il fait pas ça.
Ben le président de la République, il doit faire attention. L'hyperviolence, je la condamne. Mm-hmm. Mais moi, quand j'entends le président dire j'ai envie d'emmerder les non vaccinés, vous êtes sûr que vous réveillez les fous? Vous réveillez les fous. Et ça, il doit être très prudent parce que moi, le président de la République, il a été giflé, mais il est hyper protégé. Mais les députés et les élus locaux ne sont pas du tout protégés.
Ils sont tous seuls.
Tout à l'heure, je ne sais plus très bien que pratiquement aucun député de La République En Marche, donc tu dois le savoir, avait été à l'abri d'une menace, quelle qu'elle soit.
Bien sûr.
Et sans doute, l'opposition a dû connaître à peu près la même situation.
Notre permanence des Alpes-Maritimes a été saccagée il y a quelques jours.
Et je trouve que dans le discours présidentiel, ce n'est pas suffisamment dit.
Il a tenu des propos vis-à-vis de ces violences aux élus, aux maires, aux députés, etc. Non, mais il fait comme nous. Il est dans la même logique. Simplement, il faut se interroger pourquoi. Et moi, le pourquoi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas simplement des foyers de radicalisation. C'est qu'il y a une culture de la civilité. Alors, est-ce que c'est le service national universel qui est la piste? C'est une piste qu'on explore de plus en plus. Mais il y a revenir...
16 000 personnes en
Bruno.
Mais attendez, mais je ne vous dis
Je veux bien, mais...
On va attendre les propositions de la campagne présidentielle,
Bruno,
si vous voulez bien.
Précis.
Mais j'ai écouté la ministre qui s'en occupe, qui dit, une des pistes, c'est le généraliser. Peut-être qu'il faut revenir...
Passer à 50 000.
Non, mais peut-être
c'est ce qu'elle propose.
Parce que
faut prendre la mesure aussi de ce qui se passe.
Moi, je pense que si on ne fait rien, on continuera à discuter de ces sujets-là pendant encore très longtemps. Par contre, si on essaye de mettre de la civilité dans la tête de nos jeunes dès 16 ans, on a une piste qui, à mon avis, est intéressante.
Oui, enfin, alors, à 16 ans, il y a beaucoup de choses perdues. Hein.
Est-ce que
je
dis
la civilité. Je vais être plus précis, si tu le permets. Valérie Pécresse a lié immigration et délinquance. Le président ?
Ben moi, je ne le lis pas.
Le président ?
En toute honnêteté, M. Dacier, Marine Le Pen fait le lien depuis très longtemps. Je suis heureux que maintenant tout le monde y vienne, mais...
Non, mais je ne sais pas si tout le monde y vient. Je dis que Valérie Pécresse a lié ce que tout le monde pense, hein, la plupart des Français pensent. Je ne suis pas sûr que le président en ait jamais parlé. C'est tout ce que je dis. Il y a des non-dits. Même si c'est une position qui sera différente de celle de Valérie Pécresse. Mais on ne peut pas nier les évidences que nous avons sous les yeux.
À un moment, on peut le lier, il suffit d'aller dans les prisons. Bien sûr qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, il ne faut pas en parler. Mais un jour, il va falloir jouer la transparence. Ça ne veut pas dire, loin de là, que tous les immigrés sont des délinquants. Bien évidemment.
Il y a des choses quand même.
Personne ne pense que tous les personnes d'origine étrangère sont des délinquants. Évidemment. En revanche, il y a une surreprésentation des populations issues de l'immigration dans la délinquance. Pourquoi ? Parce que si nous et tous autour de cette table, on respecte la loi, c'est parce qu'on nous l'a inculqué, parce qu'on croit dans les valeurs de notre pays et qu'on croit dans notre nation aussi, que les règles de vivre en commun, nous les acceptons. Certains, parce qu'on a renoncé à l'assimilation républicaine, arrivent en France, se croient tout permis en France, y compris d'importer leur culture, leur langue, leur mode de vie et leurs lois religieuses parfois, et que ça prévaut par rapport à la loi nationale et aux coutumes nationales, et c'est là qu'est le problème. C'est qu'il y a deux systèmes qui se superposent. Tant qu'on ne revient pas à un système commun, partagé par tous, eh bien, ça dysfonctionnera. C'est pour ça qu'il faut revoir en profondeur les règles de l'immigration et pour les personnes qui arrivent en France, les assimiler, c'est-à-dire faire d'eux des Français et non pas faire de leur culture une culture supplémentaire à la culture française.
La loi est supérieure aux religions, pas dans le domaine privé, mais dans le domaine public, c'est la loi qui est supérieure aux religions.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Bruno Bonnel, Laurent Jacobelli, Éric Diard et Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite d'un débat dans Punchline. Et puis tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Guylaine Ottenheimer. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est son chef de challenge. Jeannette Bougrad est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste. Et Amine El-Khatmi, bonsoir, président du Parti républicain. On va parler de l'actualité. C'est cette grève qui s'annonce massive demain dans l'enseignement, avec peut-être 75% des enseignants qui seraient concernés par ce mouvement de grève, la moitié des écoles fermées, l'apocalypse pour les parents qui sont en train de chercher tous les moyens pour faire garder les enfants demain. Et puis un ministre qui visiblement est dans la tourmente, sans doute pas sur la sellette parce qu'il bénéficie du soutien de l'exécutif. Mais néanmoins, qui est dans la tourmente, on va l'écouter cet après-midi se justifier au Sénat sur à la fois les protocoles sanitaires et la grogne qui monte.
Nous sommes contraints par des réalités. En l'occurrence, nous préférions qu'il n'y ait pas le virus, nous préférions qu'il n'y ait pas une telle complexité des choses. Ensuite, vous avez cherché d'une certaine façon à caricaturer les évolutions, qui sont le prix à payer pour être au plus près des réalités. Mais si on va à l'épure des grands principes, c'est toujours le même. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, depuis fin novembre, un test à faire au début pour revenir à l'école. Et ce qui a été ajouté début janvier, c'est deux autotests. La seule transformation, c'est celle que profonde, c'est celle que le Premier ministre a annoncée, c'est-à-dire que le premier test devient un autotest parce qu'on a justement écouté les complexités éprouvées par les acteurs de terrain. Donc soit on veut créer des polémiques, c'est en réalité assez facile vu les difficultés que pose ce virus, soit on cherche l'unité nationale autour de notre école et on va et tout simplement on décrit les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les trois autotests permettent d'aller dans ce sens décrit par le Premier ministre, c'est-à-dire une politique qui permet et d'avoir l'école ouverte et d'avoir de la sécurité sanitaire.
Ministre de l'Éducation nationale qui est sur la sellette ou pas, Guylaine Ottenheimer ?
En tout cas, moi, je trouve qu'il fait preuve d'un peu trop d'arrogance. Parce que c'est vrai que ça a été compliqué pour les familles. Essayer de faire des tests à un gamin de 3 ans, 7 heures du matin avant d'aller à l'école, quand il y a une école où il y a 2, 3 classes qui sont contaminées, évidemment, c'est tout le monde va dans la même pharmacie. Vraiment, c'était très compliqué.
Et ça l'est toujours.
Je ne dis pas que personne n'a la solution magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très profond qui est en train de se passer dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol des injonctions qui viennent d'en haut et qui ne sont pas discutées, participées. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où il y a aussi ces allers-retours, ces changements de braquet, parce que c'est compliqué de suivre l'évolution de ce virus, mais je pense que dans beaucoup de pays, les maires, les députés, les associations professionnelles, les ordres des médecins, les ordres des pédiatres, enfin, toutes ces sociétés savantes sont participent. Et donc, finalement, tout le monde est d'accord sur la solution qui a été prise, ou en tout cas un peu plus d'accord. Là, il y a 99,9% des gens qui attendent la décision le dimanche soir d'un ministre. Il y a un moment, c'est plus supportable. D'abord, les méchants disent c'est de l'infantilisation. Non, c'est vraiment trop vertical. C'est pas de la bonne gestion humaine. Si dans une entreprise, vous appuyez sur un bouton, que c'est le PDG qui appuie sur le bouton, rien ne se passe. Il faut que ça passe quand même par les différentes tranches de hiérarchie. Il faut qu'il y ait une acceptation.
Jeannette Bougrabe, sur le protocole et à la fois l'attitude de Jean-Michel Blanquer.
Il est en difficulté. La preuve en est, c'est que c'est le Premier ministre qui est venu sur le plateau du journal de TF1 pour... France 2.
Vous êtes très au fait de l'apparition du Premier ministre, Jeannette.
Pardonnez-moi. Mais c'est vrai que c'est quand le Premier ministre se substitue à son ministre pour énoncer en tout cas des règles, c'est qu'il estime qu'il y a un recadrage à faire et il fait ce recadrage. Pour autant, je ne suis pas sûre que ce soit plus simple, parce que c'est quand même 3 examens qu'on doit faire à un enfant. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une déconnexion entre l'administration. Moi, je n'irais même pas le ministre, c'est que l'administration est toujours très... c'est très facile pour elle de fabriquer des usines à gaz. Et c'en est une, là. C'est-à-dire, comment ne pas penser que, de toute façon, c'était pas grave, parce qu'on faisait pour reposer sur les familles, en fait, la gestion, en fait, de cette rentrée. Et je me dis que peut-être Valérie Pécresse qui avait raison de reporter peut-être d'une semaine en fait la rentrée des classes, ce qui aurait permis en tout cas de permettre au ministère en fait de travailler avec les rectorats, en tout cas d'accompagner les directeurs, d'école, et peut-être que ça aurait été une meilleure solution. Et en tout cas, moi je pense que même avec les autotests, c'est pas facile pour les familles, et qu'en réalité les tests salivaires,
il y a quand même 3 à faire en 4 jours.
Oui, oui, non, mais il faut les trouver, il faut faire la queue, ils sont en travail.
Les gamins acceptent.
Oui, ils vont hurler, on le fait mal, on le fait mal, et puis vous avez des enfants qui hurlent. Et je pense que beaucoup de parents feront des attestations qui seront en fait fausses attestations, bien sûr.
Amine El Khatmi, une crise politique ou une petite secousse pour le ministre ?
Oui, c'est une petite secousse. Moi, je trouve qu'on est... Alors, même si je rejoins ce que vient de dire, je suis un peu... Et en même temps, vous voyez, je suis partagé. À la fois, je suis d'accord avec ce que dit Jeannette, c'est qu'on a le sentiment de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas simple... effectivement, moi je vois autour de moi, j'ai plein d'amis qui ont des enfants qui ne trouvent pas de test. Ils ont fait le tour des pharmacies, dans les arrondissements ou en dehors, dans leur ville, quand ce n'était pas à Paris. Et ils disent, on a fait 3-4 pharmacies, il n'y a pas de test, donc c'est pas possible, on ne peut pas tester les enfants. En même temps, je trouve que c'est un peu injuste. On est quand même l'un des pays d'Europe qui a le moins fermé ses écoles. Et ça, c'est quand même à mettre au crédit, je suis désolé, du ministère de l'Éducation nationale. J'ai retrouvé les chiffres tout à l'heure. Par exemple, en Belgique, ils ont fermé 26 semaines. En Allemagne, 15 semaines. En France, c'est 10 semaines. On est vraiment dans la moyenne basse de l'OCDE, sans doute parce qu'on sait que des écoles fermées, ça veut dire des enfants... maltraités, des enfants en décrochage scolaire, des enfants qui n'ont pas le repas, le fameux repas équilibré dont on parle tous, parce que c'est le seul qu'ils ont à la cantine, parce qu'il coûte peu cher et qu'ils n'arrivent pas à avoir à la maison parce que les parents ne peuvent pas leur acheter le repas équilibré. Donc je trouve que quand même globalement, c'était plutôt une bonne gestion d'un point de vue scolaire. Je trouve la polémique sur les extracteurs d'air assez injuste, parce qu'on a l'impression que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit les acheter, alors qu'on sait que la compétence des bâtiments et du matériel relève des mairies,
des
collèges, des départements et des régions pour les lycées. Donc c'est pas au ministère de l'Éducation nationale d'équiper, mais c'est aux mairies. Et l'État a quand même proposé une aide de mémoire de 50 euros par matériel. Et là où je vous rejoins, vous voyez, ce soir on est
Très d'accord.
L'union sacrée, c'est qu'effectivement, sur les masses. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut un peu de nuance et qu'il y a peut-être un peu de... d'exagération dans les attaques contre Jean-Michel Blanquer.
Juste pour rajouter, c'est qu'en réalité, c'est pas uniquement cela, ce qui est, je pense que les enseignants, mais en fait, c'est aussi les parents d'élèves qui sont un petit peu un beau. Et c'est des, en réalité, c'est des millions de personnes. La seule chose, c'est que il faut. Les résultats de la France et les performances de la France en mathématiques sont désastreuses. On décolle pas du classement PISA. Donc si encore on avait de bons résultats et qu'on était dans le peloton de tête du classement PISA ou des classements, peut-être que ça passerait. Mais en l'occurrence là, certes, on communique beaucoup sur le dédoublement des classes de cours préparatoires en zone prioritaire. Mais pour le reste, les résultats ne sont pas aussi au rendez-vous.
Voilà. On fait une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, Guylaine. On reviendra sur cette grève dans l'enseignement, qui est aussi un bras de fer politique, il ne faut pas se leurrer. On est à 90 jours de la présidentielle, les enjeux sont d'abord et avant tout politiques. Et à tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Dans Punchline avec Guylaine Ottenheimer, Jeannette Beaugrabe et Amine Nelkatmi, on évoque cette grève dans l'enseignement demain qui s'annonce assez suivie, même très suivie. C'est un bras de fer politique évidemment qui se joue. Écoutez Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains.
À ce qu'on voit... C'est un désordre et un chaos généralisé dans l'école et moi je ressens cette immense souffrance à la fois de la communauté éducative mais aussi surtout des parents parce qu'on ne sait pas si les enseignants sont là, on ne sait pas quel est le protocole à suivre.
Ah
bon ? Moi j'avais fait cette proposition qui était une proposition de sagesse, qui était comme je l'avais proposée en 2021 et d'ailleurs le gouvernement l'avait acceptée à l'époque pour les vacances de Pâques, c'était de repousser d'une semaine. Pourquoi ? Repousser d'une semaine la rentrée. D'abord pour prendre le temps d'écouter tout le monde et de faire le protocole avec les enseignants et les parents, mais aussi et surtout pour aplatir la courbe des contaminations. On sait bien que pendant le réveillon de Noël et du jour de l'an, on s'est contaminé. Et donc on a 6 jours d'incubation. Donc on aurait pu organiser l'accueil des enfants, des parents qui ne peuvent pas télétravailler, mais au contraire, pour tous ceux qui étaient en télétravail, les garder à la maison.
Je pense qu'il faut faire, le gouvernement a intérêt à faire attention à cette crise. Je pense qu'elle révèle beaucoup de choses. C'est pas juste une petite déstabilisation de Blanquer, qui d'ailleurs n'est pas responsable de la politique contre le Covid. Tout est décidé par de Flessy, le comité scientifique, par Véran, par l'Élysée.
Delfrécy.
Oui, Delfrécy. Excusez-moi.
Non, pas de souci.
Par Macron. Donc, je pense qu'il n'est qu'un des rouages. Cela dit, c'est vrai, comme ministre de l'Éducation nationale, c'est à lui de dire à un moment
stop,
ça, c'est pas possible.
Mais bien sûr.
Voilà,
on ne peut pas infliger ça aux enfants.
On ne peut pas dire c'est la faute à Véran. Il y a un moment, on est ministre et on dit bah, écoutez, non, mon administration. Elle refuse de faire ça et on va s'y prendre autrement. Et mais là où je dis que le gouvernement doit faire attention, parce que aujourd'hui les gens ont vraiment assez là. Quand il a fallu reporter les masques dans la rue, c'est-à-dire passer finalement sa journée avec les masques, les transports en commun, la rue, le boulot, on rentre chez soi. Bon, il y a vraiment un sentiment de ras-le-bol. En plus, on entend dire qu'effectivement, la politique vaccinale, ben, c'est pas l'alpha et l'oméga. L'OMS, qui d'ailleurs s'est trompé sur d'autres choses, mais qui dit, ben, attention, c'est pas la politique unique à tenir. Donc, les gens commencent à douter. Ils en ont marre. Et ils ont le sentiment que, quand même, on décide un peu sans haut et sans eux. Et c'est quand même une des faiblesses de ce quinquennat, c'est cette gouvernance extrêmement verticale, où on a effacé tous les corps intermédiaires, où on a effacé le Parlement. Quand il y a 15 jours, il y a eu des altercations au Parlement, moi, ça m'a fait du bien. Je dis, ah, le Parlement existe, il y a des gens qui...
Oui, mais alors, il y a des...
On va pas faire le grand débat du Covid.
On a déjà eu le grand débat après les Gilets jaunes.
Franchement, c'est pas là que ça s'est décidé. C'est comme le grand débat sur l'écologie, ça n'a rien donné derrière. C'est pas la même chose que de dire, attends, je fais un grand débat et puis c'est moi qui décide de quand et où, et de partager le pouvoir avec les corps constitués, avec les corps intermédiaires.
Moi, je suis d'une semaine à l'autre, à chaque fois, je suis assez surprise et pas choqué, mais un peu quand même. La semaine dernière, il fallait, entre guillemets, hein, parce que je ne veux pas que ma fille entende...
embêter les Français.
Embêter les Français. Et donc, on crée une espèce de buzz.
Les non-vaccinés, pour être
clair. Et une sorte de buzz. Et je ne sais pas si vous êtes allé vous faire tester dans la pharmacie, c'est que vous avez des queues pas possibles, les gens sont sur les nerfs en réalité. Et les gens se sont regardent si vous ne passez pas devant, etc. Donc il y a une tension qui est quand même palpable. Vous êtes avec votre enfant, vous êtes là, vous attendez dans le froid, parce que la semaine dernière, il n'a pas fait très beau, et ce qui est normal, c'est l'hiver. Et donc vous attendez avec votre enfant une heure et demie, deux heures, et de se dire qu'en réalité, ça peut passer, ça ne passe pas. Voilà. Et ça ne passe pas. Et c'est logique, voilà. C'est-à-dire que le bien-être, mais les conditions dans lesquelles ça se fait, et on fait peser tout ça sur les pharmaciens, et donc ça ne va pas. Donc la solution qui aurait été la bonne, c'est de prendre le temps et de faire les tests à l'intérieur des établissements scolaires, voilà. Et les trois tests, je ne suis pas sûre que ce soit notamment nécessaire, voilà.
Tous les quatre jours, pendant quatre jours. Amine El Khatmi. Sur cette crise, Valérie Pécresse, évidemment, qui fait de la politique.
Essayer de défendre le gouvernement. Alors,
non, il n'y a pas ce rôle-là. Non, mais tous les sujets vont devenir politiques maintenant. Enfin, je veux dire,
ils le sont tous.
Je veux dire, on est à moins de 90 jours maintenant du premier tour. Tous les candidats sont déclarés, sauf le principal, dont on a assez peu de doutes sur l'issue de sa réflexion. Donc tous les sujets deviennent politiques. Voilà, c'est normal. On est en campagne. Après, voilà, Valérie Pécresse, là aussi, elle est dans son rôle. Mais quand on parle de désorganisation, reporter d'une semaine la rentrée, c'est aussi synonyme de désorganisation, parce que c'est facile quand vous n'avez plus d'enfants en bas âge et que vous êtes, vous pouvez faire votre vie à peu près tranquillement sans avoir à en référer à personne. Mais quand vous avez des enfants, tout le monde n'est pas en télétravail. Moi, je vois déjà juste demain pour la grève, il y a des gens qui ont dû appeler les nounous, demander une journée de repos, etc., juste pour une journée de grève. Bah, une semaine de vacances en plus, c'est une désorganisation.
Mais c'est pas uniquement les professeurs, parce que la
semaine... Non, je parle des parents, je parle des familles, je parle de la désorganisation au travail,
Juste pour moi, cette semaine, j'ai deux grèves, la grève des crèches à Paris, donc il y a eu le mouvement de grève du personnel, parce qu'on oublie aussi que des personnels fatigués, exténués, c'est aussi dans les crèches, donc les lieux de garde des moins de 3 ans. Et la grève cette semaine, et la grève demain. Donc du coup une semaine. Mais en même temps, il faut encourager le télétravail. Et on lisait que les entreprises ne jouaient pas le jeu. Et alors que le virus circule énormément, donc il faut aussi contraindre les entreprises.
Oui, mais même en 10 secondes, Guylaine. Là aussi, on a l'impression, on dit le télétravail, on a l'impression que les gens sont chez eux sur leur canapé, peuvent s'occuper de leurs enfants. Mais je suis désolé, il y a plein de gens qui sont en télétravail et qui doivent rester sur leur poste, concentrés, parce qu'ils ont des boulots où il faut suivre des cours, où il faut répondre à des Zooms, à des WhatsApp, à des mails, etc. Quand vous avez des enfants et que vous êtes en télétravail, parfois c'est compliqué quand l'enfant crie, quand il pleure, quand il faut lui changer.
Vous voyez, les solutions sont très compliquées. Et moi, je pense que ce qui a manqué dans cette crise, c'est un peu l'appel à la responsabilité individuelle, à la prise en charge d'un certain nombre de problèmes par les acteurs eux-mêmes. Je pense que, par exemple, ma fille va accoucher là dans pas longtemps, elle pendant 15 jours, elle ne va voir personne parce qu'elle ne veut pas arriver à la clinique avec le Covid. Bon, il y a des gens qui ont des pathologies, c'est à eux aussi de prendre soin d'eux. Je pense que la vaccination obligatoire après 60 ans, c'était une chose logique plutôt que d'emmerder tous les petits. Je sais pas, mais enfin, il fallait préparer.
Le coût politique n'aurait pas été un peu élevé pour
moi, je pense que non. Qu'est-ce qui va aux urgences?
Le coût de cette grève demain sera plus important?
Mais oui. Je veux dire, emmerder tous les petits-enfants à faire des... Alors, on sait qu'ils sont des vecteurs, mais je veux dire, on peut courir après les tresses, après les tests. Tant quand vous aurez des enfants dans une cour, dans une école, je veux dire, ils se touchent, ils éternuent.
Ils respectent pas les gestes
barrières. C'est pas possible d'empêcher le bien de passer dans les écoles. En revanche, qu'est-ce qui pose problème? C'est les gens qui ont des pathologies ou les personnes âgées qui risquent de faire des formes graves et qui ne sont pas vaccinées. Il faut quand même s'attaquer à ces gens-là via l'assurance maladie, responsabiliser les gens. Je pense c'est un peu quand même tout le monde à la même heure, tout le monde fait le vaccin, tout le monde fait ceci, tout le monde est pareil, tout le monde rentre chez soi, tout le monde fait les tests. Non, les solutions, elles doivent être beaucoup plus
détaillées, avec
des responsabilités. Il faut responsabiliser les gens. Il y a des gens qui prendront trop de risques, il y a des gens qui prendront moins de risques. Voilà, il faut aussi que l'individu s'implique.
Ok, d'accord, mais c'est un sujet politique, évidemment, maintenant.
Oui,
parce que, enfin, on est à 90 jours de la présidentielle.
Je pense que Valérie Pécresse, elle le dit parce qu'elle est candidate à la présidence de la République, mais je pense qu'elle le pense aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui le pensent comme elle. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution, c'était de retarder. Mais c'est vrai qu'on n'a pas impliqué les gens dans la discussion.
On est dans un faux plat, dans cette campagne politique, électorale.
Absolument, il ne se passe rien, on s'ennuie, c'est pas possible. Mais,
vous demandez quoi?
Mais cela dit, je pense qu'en tant que tant qu'Emmanuel Macron ne sera pas rentré dans l'arène. Voilà, on est un peu étonné que Valérie Pécresse fasse pas un peu plus parler d'elle, parce que là, il y a un boulevard.
Elle a fait parler d'elle avec le Cap-Cher.
Oui, là, d'accord. Mais je veux dire, sur vraiment des éléments de campagne, des idées nouvelles, des choses qui emportent un peu. Voilà. Je trouve que cette campagne est assez ennuyeuse. Bon, en même temps. Les campagnes amusantes où chacun propose des trucs fous, c'est pas non plus formidable. Chirac nous a beaucoup amusé avec la fracture sociale, puis le lendemain il s'est passé le contraire. Donc faut faire attention aux campagnes probables.
C'était une analyse très juste. Et
oui, mais derrière il s'est pas passé du tout ce qu'on.
Non, mais c'est déjà. Non. J'attendrai en tout cas un certain nombre de sujets pour revenir sur l'école. Il faudrait pas que l'école soit l'éducation la grande absente en fait d'un programme présidentiel. Et pour le moment, les questions de société sont absentes. Voilà. On a beaucoup entendu parler d'immigration et de sécurité avec l'entrée en campagne, avant même l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Et ça reste quand même, en réalité, le sujet principal. Donc c'est les quartiers, c'est l'immigration, c'est la sécurité. Et on voit qu'en réalité, et cette image désastreuse, affreuse, de ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur... traîner comme dans les temps les plus anciens où on traînait son ennemi à cheval. J'ai trouvé ça affreux, voilà.
Et ça montre. Mais tout se rejoint. L'éducation nationale est au cœur aussi de ces problématiques.
Oui, mais on ne propose rien. Pour le moment, on ne propose rien. Et c'est
Valérie Pécresse propose un certain nombre de choses.
Mais on l'entend plus sur les questions de voilà le sortir le Karcher. Moi, je pas sûr que c'était on s'attend justement de sa part, qui elle gère les lycées dans une région, peut-être d'être un peu plus en avant sur ces sujets-là. Donc,
Amine, sur
cette
campagne.
Oui, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a eu trois mois de campagne assez tonitruant, hein, avec Zemmour qui tous les matins nous sortait une énormité, qui faisait parler tout le monde pendant 48 heures. Donc il y a eu une période assez agitée. Il y a la trêve des confiseurs, donc là, on s'attend à ce qu'il se passe rien. Effectivement, il se passe rien, mais en général, en année de campagne, assez vite, très vite même, ça repart, début janvier. Et là, on est quand même le 12 janvier, et il y a un espèce, effectivement, vous avez dit, de faux plat, une espèce de truc un peu en suspension, où personne ne sort... Enfin, voilà, on est encore dans le Covid, mais en même temps, on essaie dans... Donc, Valérie Pécresse, effectivement, lorsqu'elle était à Cavaillon et à Salon de Provence, a essayé, mais sur un sujet où il n'y avait pas de surprise possible, parce que c'est des fondamentaux, la sécurité, le régalien. Candidate de droite, elle y va, tête baissée, et elle a fait ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs. Mais
il n'y a pas de concept.
Pardon ?
Il n'y a pas de concept.
Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de... Et on attend le redémarrage et on a l'impression que tout le monde est encore à son repas de Noël.
On va faire une petite pause, on va redémarrer dans un instant. On écoutera, Éric Zemmour qui fait une grande déclaration d'amour aux commerçants. Et puis on parlera aussi de Marine Le Pen qui elle avance un certain nombre de propositions. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain, Jeannette Bograbe, essayiste, et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. On va parler de ce qui se passe du côté d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, alors, il a fait une nouvelle vidéo postée sur YouTube, une grande déclaration d'amour aux commerçants, écoutée sur fond de musique, comme toujours.
Je ne fais pas semblant, car je ne suis pas un politicien professionnel. Mes grands-parents étaient commerçants, mes parents l'étaient aussi. Je suis moi-même devenu mon propre éditeur. Je ne suis pas un de ces hauts fonctionnaires qui jouent avec l'argent de la nation sans avoir rien vendu ni rien acheté avec leurs propres économies. Je fais partie du même monde que vous, le monde réel, celui que vous rendez possible chaque jour de notre vie. Et si je vous dis tout cela, ce n'est pas de la propagande, c'est du vécu. Je vous aime chaque fois que je fais les courses dans mon quartier et j'aime vos sourires qui me disent que je suis en France.
Voilà pour Éric Zemmour, cette déclaration, le jour du début des soldes, évidemment, aux commerçants. Karim, Amine...
Au début des soldes.
C'est ça, je l'avais tout à l'heure sur le plateau. Amine.
Bon, c'est un peu kitsch sur la forme. Sur le fond, il a raison. Il y a un électorat, sans doute, qui peut être réceptif à son discours, sans faire comme ça essentialiser les catégories. Mais on sait que chez les artisans, chez un certain nombre de professions libérales, chez je sais pas moi les buralistes, ce sont des catégories qui sont analysées depuis longtemps par les sondeurs comme étant assez réceptives aux thèses de la droite, déjà de la droite libérale, forcément de par leur profession, et un électorat où on vote plutôt, enfin pas majoritairement, mais où le vote pour les candidats d'extrême droite est assez fort. Donc il est sans doute plus, il a sans doute plus d'électeurs potentiels là que dans le monde de la culture ou dans des sphères qui sont moins, moins ouvertes à ce genre de thèses.
Il travaille son électorat, son programme.
Il travaille et puis il essaye de marcher sur il essaye de récupérer une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Il a un discours très populiste, en fait. Là, c'est le, et ce côté, ce visage qui me rappelle que je suis en France, ça
les ficelles sont grosses.
Oui, sont très grosses. En tout cas, je ne pense pas qu'il gagne des voix avec une telle bande-annonce.
Guylaine Ottenheimer, il est décroché dans les sondages actuellement par rapport à Marine
Le Pen. Je juste sur ce que j'ai entendu.
Oui, allez-y.
Un petit effort et il fera du rap.
Il n'y est pas encore.
Non, mais c'est trop lent. Mais il essaye. En fait, il essaye en fait de d'avoir ce mouvement avec cette dynamique, etc. Mais bon, on en est très loin. Mais c'était marrant. Je me disais, mais non, mais fais un effort, bouge-toi, va un peu plus vite, sois un peu plus percutant, parce que
il est en discours d'amour.
C'est vraiment
déclaration d'amour.
Mais c'est mou.
Une déclaration.
Et deuxièmement, je vois pas pourquoi un commerçant le choisirait parce qu'il lui dit, je vous aime et quand j'aime votre sourire. Enfin, on va dire, on est en campagne présidentielle, faut proposer des trucs.
Il est distancé, je le disais, un peu dans les sondages par Marine.
Oui, tout à fait.
Elle mène une campagne très carrée, elle déroule ses arguments de façon implacable. Elle était ce matin chez nos confrères de RMC BFM. Elle veut notamment exclure les étrangers de la solidarité nationale, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'ils aient de prestations sociales. Elle veut changer la constitution. Est-ce que ça, c'est un argument qui peut faire
Je pense que c'est une idée qu'elle défend depuis très longtemps, auquel beaucoup de Français adhèrent. Ce qui est étonnant, c'est que je crois que c'est la première ministre du Danemark qui a décidé, parce qu'ils ont une pénurie d'emplois, ils se sont aperçus que 35% des femmes d'immigrés ne travaillaient pas. Et donc, pour les ramener vers le travail, elle a supprimé un certain nombre de prestations sociales pour les étrangers qui ne travaillaient pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui... Et c'est une social-démocrate. Donc, je pense que le terrain est là pour effectivement pousser les étrangers à travailler avant d'avoir des droits sociaux. Je pense que c'est une demande d'une partie de la population. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent que de dire on va les mettre dehors, parce que tout le monde sait qu'on va jamais les mettre dehors, que l'immigration zéro, les usines tourneraient plus. On a déjà des manques de personnel. On a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne quand ils ont fermé les frontières. Ils n'avaient plus de chauffeurs pour livrer. Donc, je pense que c'est une...
Enfin, elle veut expulser quand même les étrangers. Bon, non, s'ils sont au chômage. Hein, donc...
Oui, mais je veux dire, bon, c'est pas le propos avec du gros rouge qui tâche d'Éric Zemmour. En fait, Éric Zemmour a répondu à une pulsion d'une partie de la population française qui avait envie de dire ras-le-bol. Ras-le-bol de l'islam, ras-le-bol des mosquées, ras-le-bol des racailles, ras-le-bol
de l'islamisme. De l'islamisme, c'est pas l'islam qui pose problème.
Enfin, avec Zemmour, c'est l'islam. Hein, c'est quand même, c'est pas que l'islamisme. Et donc, c'était un coup de gueule collectif qui a été entendu. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus beaucoup de munitions dans son barillet.
Alors, Jeannette, sur cette idée de Marine Le Pen, peut-être ?
Pour moi, elle est contraire aux principes fondamentaux de notre République, c'est tout. C'est-à-dire que exclure alors que les gens peuvent être en situation régulière à des prestations sociales, alors que ce n'est pas l'objectif d'une prestation sociale, il y a pas... Qu'est-ce qui justifie cette discrimination entre quelqu'un qui est étranger ou pas ?
La citoyenneté, dit-elle.
Oui, mais dans ce cas-là, il faut que la discrimination ait un rapport avec l'objectif de la mesure. Et c'est, une mesure sociale n'a pas pour objectif... Non, je comprends. Pour moi, c'est on oublie une chose, c'est qu'on est lié aussi par des conventions internationales. Voilà. Et que je suis même... Enfin, c'est très bien d'annoncer, tous les candidats veulent modifier la Constitution. Mmh. Et on a vu à quel point, y compris Emmanuel Macron, c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait de modifier la Constitution. Alors sur des sujets qui sont en violation de la plupart des droits fondamentaux et des droits sociaux, non, moi je ne pourrais jamais soutenir une telle proposition.
Voilà. Ah, je ne la soutenais pas, je disais simplement qu'il y a un terrain qui est propice.
Amine ?
Alors, moi, je suis pas favorable à cette mesure, évidemment, ou à cette idée d'expulsion. Mais je pense, effectivement, vous avez cité les sociodémocrates danois qui ont adopté un certain nombre de mesures assez rudes, assez sévères. Je pense qu'introduire un certain nombre de contreparties dans une logique de donnant-donnant, notamment, par exemple, par rapport à l'apprentissage de la langue, dire effectivement à des gens, ben voilà, il y a un parcours d'apprentissage. Je rappelle qu'en France, on a 200 heures. En Allemagne, c'est 600. Donc, il y a un effort.
D'accord, eux, important. C'est les Länder et nous, c'est juste des associations.
C'est des associations, exactement. C'est délégué par l'État à des associations. Donc, on connaît les associations. Certaines font bien leur travail, d'autres non. Et donc, dire à certains, à des étrangers, par exemple, certaines prestations, évidemment, pas des prestations vitales. Si vous tombez malade, on vous soigne. On n'est pas des monstres. Mais les CCAS, les villes distribuent des chèques vacances, distribuent des prestations qui ne sont pas des prestations vitales au sens vital du terme, mais qui sont des prestations qui arrangent le quotidien. Bah, leur dire, voilà, vous n'aurez pas accès à ces prestations tant que vous n'aurez pas assisté à X heures de cours
on sait très bien qu'en réalité, on vise certaines catégories parce qu'on ne va jamais demander à des anglo-saxons, par exemple, qui viennent en France, vous leur dites, bah, vous allez apprendre le français. Hein,
on vise ceux qui demandent la nationalité française, aucune catégorie.
En l'occurrence, je ne crois pas que Marine Le Pen ou d'autres...
Moi, je parle de moi, j'ai dit que j'étais contre ce que disait Marine
Le Pen. Mais fondamentalement, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc moi, je veux bien, mais je ne crois pas à ça. Je crois que c'est des mesures pour appâter, faire croire, et en réalité, la déception est derrière, parce qu'on est quand même lié par un certain nombre de textes.
Elle peut changer la Constitution, si elle est élue.
Ah bah, pour éventuellement dire et introduire que le principe d'égalité ne s'appliquera pas en matière sociale pour des étrangers, pour des non-français, alors ayez expliqué ça ensuite, qu'on va construire l'Union européenne, enfin, etc. Donc il faudra de toute façon exclure les ressortissants communautaires. Enfin, et de toute façon, il n'y a aucune justification à cela. C'est-à-dire que je ne comprends pas que des mairies qui proposent des services sociaux, en plus les de camps de vacances, tout ce qu'on veut. Mais même ça, ça a été jugé. Donc je ne comprends même pas que ça arrive jusque-là. C'est là où on se dit quand même qu'on est quand même en régression par rapport aux idéaux qu'on pouvait avoir d'égalité. Voilà. Et moi, je ne vois pas en quoi une mesure sociale, la contrepartie serait d'aller... Enfin, dans ce cas-là, c'est pour tout.
Vous touchez là, effectivement, quelque chose de tout à fait essentiel qui est compliqué à expliquer à certaines catégories de population qui, par exemple, cherchent un logement. On a, je ne sais pas combien de pourcents de gens mal logés en France. Bon. Est-ce que vous mettez sur un pied d'égalité une famille française de souche, comme on dit, et des gens qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Est-ce qu'on les traite exactement de la même façon? Est-ce qu'il y a on dit vous venez, mais il faut que vous intégriez, là, il y a tel travail, il faut que vous l'acceptiez, il faut que vous formiez. Je ne sais pas, par exemple, en Allemagne, non seulement on leur demande d'apprendre la langue, mais il y a aussi des formations. On dit, dans le nord de nord de l'Allemagne, on a besoin de ferronniers. Donc, vous allez apprendre la ferronnerie. Eh bien, on a besoin de maçons du côté de Munich. Donc, vous allez apprendre la maçonnerie et vous allez à Munich. Je termine, on s'en fiche. On leur dit, vous venez, vous allez où vous voulez. Alors, évidemment, les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en Seine-Saint-Denis où ils ont de la famille parce qu'on leur a rien de proposé d'autre. Voilà, il faut peut-être aussi organiser, proposer... Et donner, pas simplement dire, vous venez, vous prenez vos différentes prestations, puis vous installez comme vous voulez, puis voilà. Il y a une sorte de bordel. Alors maintenant, cela dit, vous touchez à une question essentielle. Est-ce que c'est l'égalité entre des étrangers qui viennent d'arriver et des Français? Ça, c'est une question. Est-ce que l'État est pour protéger ses ressortissants? Ça, c'est compliqué.
En un mot, Jeannette.
Juste en un mot, mais vous comprenez bien que vous faites un amalgame entre ceux qui ont l'immigration du travail, l'agroupement familial qui n'existe quasiment plus, la possibilité de venir s'installer en France pour travailler est quand même extrêmement limitée. En réalité, ce que veut pointer ici Marine Le Pen, c'est plutôt des prestations qui sont accordées à des gens qui sont déjà en situation irrégulière. Et voilà,
Des situations régulières.
Il y a un amalgame et moi, je refuse de voir cette France un peu rance. Je n'adhère pas à cela.
Merci, Jeannette Bougrat, Amine El-Khatmi, Guylaine Ottenheimer, d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les informations de 20h. Et ensuite, Mouloud Achour pour Verven Underground. À demain, 18h pour Punchline. Bonne soirée à vous.
Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.